Bonjour à tous. Depuis le 28 juillet dernier, Marciac est à nouveau la capitale du jazz. Capitale du jazz du 28 juillet au 17 août. Je vous propose un entretien réalisé à Marciac avec Jean-Louis Guillaumont, cheville ouvrière, président, fondateur de Jazz in Marciac, maire de Marciac et vice-président de la région Midi-Pyrénées. Et une rencontre aussi, une charmante rencontre avec Leïla Martial, qui n'est pas une inconnue à Marciac, est une ancienne élève des classes de jazz du collège. Elle s'est produite plusieurs fois au Festival Bis et à la Strada. Et cette année, c'est la conquête de la scène jazz française. Elle est à l'heure actuelle l'un des espoirs les plus prometteurs grâce à une personnalité et un talent qui la font échapper au cadre conventionnel et la pousse vers une exploration vocale des plus aventureuses. Son groupe Barabox mêle les influences les plus diverses avec l'électronique pour explorer un nouvel univers sonore. Je vous propose donc une interview de Leïla Martial, mais on commence avec Jean-Louis Guillaumont. Bonjour Jean-Louis Guillaumont.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici à Marciac, à quelques mètres du Festival Off, dans cette magnifique bastide qu'est Marciac. Beaucoup de festivals, M. Guillaumont, ont souffert du conflit entre les intermittents et le gouvernement sur leurs conditions d'indemnisation. Qu'en est-il de Marciac et est-ce que ce mouvement national vous a touché, à vous, ou vous touche?
Alors ce mouvement nous touche dans la mesure où il s'agit d'un problème crucial et que nous avons très tôt dit notre solidarité totale vis-à-vis des intermittents du spectacle, dont nous connaissons les difficultés. Nous les vivons à leur côté, nous n'avons pas oublié tout ce qui s'est passé depuis 2003, et nous souhaitons à leur côté que tout puisse être fait pour améliorer le sort de ceux qui, aujourd'hui, ne peuvent pas vivre de leur statut et ne peuvent pas s'exprimer. Si je suis particulièrement touché par le sujet, c'est parce que beaucoup de mes anciens élèves, beaucoup de jeunes musiciens que nous nous efforçons d'accompagner dans leur carrière vivent des moments extrêmement difficiles et qu'il convient, si nous voulons que la relève soit assurée, si nous voulons que la culture vive dans nos territoires, au sein de nos territoires, eh bien il faut donc que nous prenions des dispositions qui permettent à ces jeunes musiciens et à ces techniciens et à ces artistes et à tous ceux qui s'expriment dans le registre de la culture de pouvoir vivre de leur art et de ne pas considérer, quand on s'engage à leur côté, qu'on leur accorde une forme d'aumône, mais qu'il s'agit de la reconnaissance de leur statut et de la spécificité de notre pays. La France dispose, vous le savez, d'une grande singularité dans le domaine de la culture. Il ne faut pas s'en souvenir de temps en temps. Il faut que ce soit une constante dans nos comportements. Et si aujourd'hui j'appelle de mes voeux, je veux dire, l'aboutissement de la démarche qui est initiée, c'est parce que je pense qu'il y a urgence. On oublie trop souvent de parler des retombées économiques, de la culture et de façon générale de tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, je sais que les sommes qui sont en jeu ne sont pas, sont significatives, mais je souhaite que l'on se souvienne de tout ce que la culture apporte à la vie de nos territoires en France, et donc que nous puissions résoudre ce problème définitivement.
L'acception culturelle qui vous est chère, qui est chère à beaucoup de partenaires culturels en France. Vous lui lancez un appel à Aurélie Filippetti pour qu'elle fasse un geste envers les intermittents, M. Guillaumont?
Bien sûr, elle connaît ma position sur le sujet, et je connais la sienne, et je sais qu'elle souhaite sur le fond que les choses aboutissent rapidement. Les contraintes sont fortes, par ailleurs, dans la période de difficulté que traverse notre pays. Mais il faut que nous trouvions une issue favorable. Nous ne pouvons pas ne pas trouver de solution adaptée à un problème qui est un problème récurrent et qui ne peut connaître sa résolution que par une implication forte de l'ensemble des acteurs.
Tous les grands sont passés par ici à Marciac. Lorsque vous travaillez sur la programmation, j'imagine que vous travaillez sur celle de 2015 à venir, lorsque vous choisissez un artiste, y a-t-il chez lui une émotion particulière, un engouement à venir ici se produire?
Bien, depuis le début de cette édition de Jazz in Marciac, des artistes s'expriment régulièrement sur scène et disent à ce public, qui est un public extraordinaire, l'émotion qui est la leur d'abord de préparer leur venue, préparer le concept, je veux dire, préparer le concert, le contenu, c'est-à-dire leur programme, et puis ensuite l'échange avec ce public. Vous savez, Herbie Hancock, Wayne Shorter, dans un concert...
C'est un duo exceptionnel.
C'est un concert de légende aujourd'hui. On dit au public, nous sommes trois ce soir. Mm. C'est plutôt Wayne Shorter qui l'a dit, qui a dit, il y a Herbie qui est à mes côtés, il y a vous et moi. Mm. Et ça va se jouer entre nous. Et c'est de cette relation, je vais dire, que naîtra la qualité du concert que nous allons donner. Une musique très, très exigeante, une musique sans complaisance, une musique qui élève. Et aujourd'hui, nous savons que ce public, très, très éduqué, est en capacité 6000 personnes, 6500 personnes sous le chapiteau,
beaucoup reviennent
religieux.
Beaucoup reviennent, M. Guillaumont. Beaucoup d'artistes qui sont Winchorter.
C'est ce que j'appelle la liberté de ton de Jazzy Marciac. Nous sommes capables de programmer Ahmad Jamal 3 fois de suite si nous considérons que cet artiste a des choses à dire, et il en a toujours à dire. Ahmad est en train de répéter en ce moment, comme s'il était un tout jeune musicien, pour donner au public marciacais un concert exceptionnel. Donc voilà, la liberté de ton de Jazzy Marciac permet effectivement, en termes de programmation, de revoir régulièrement un certain nombre d'artistes, tout en faisant la part belle à de jeunes musiciens qui rêvent de s'exprimer sur l'un de nos sites.
On va en parler. 37 ans de jazz à Marciac, lorsqu'on a créé un festival, c'est votre cas, que l'on voit cette immense production, quel sentiment éprouve-t-on ? Sentiment de devoir accompli, sentiment d'une œuvre qui vous dépasse ?
Non, ni l'un ni l'autre. Vous savez, on est toujours dans une forme de recherche perpétuelle, d'amélioration. On est toujours, je le dis, ce projet n'en finit pas de découvrir de nouvelles déclinaisons. Et donc, à chaque fois, nous rêvons plutôt des prolongements de notre action. Je crois que ce regard par-dessus son épaule, on le projette au terme de son activité. Ce n'est pas encore le cas. Et donc, nous sommes davantage, je suis, et l'équipe de Jazzy Marciac est davantage, j'allais dire, dans l'accomplissement de son projet et dans la mise en œuvre de toutes les déclinaisons qui doivent exister dans les temps à venir.
Justement, vous n'avez pas peur de vous faire dépasser par, vous disiez, les déclinaisons, voir fleurir ici et là plusieurs manifestations, paysages marciac, par exemple, pour ne citer qu'elles. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de vous laisser...
Vous savez, un festival, ce n'est pas qu'une succession de concerts réussis. Un festival, c'est une fête. C'est une fête au sens profond du terme, c'est-à-dire que chacun peut y contribuer. Chacun, à sa mesure et dans son registre, apporte sa contribution. Et moi, je suis ravi de voir que le festival constitue là aussi un prétexte pour permettre une mise en évidence de tous les talents de nos territoires, voir des artistes dans le domaine du théâtre, dans le domaine du conte, mettre en œuvre des projets spécifiques pour qu'ils présentent à ce public, qui est un public disponible dans tous les registres. Je crois que c'est l'objectif même d'un festival. Et quand un journaliste du Monde dit que nous sommes l'Avignon du jazz, bien nous sommes effectivement une terre qui accueille des projets et qui permet, je veux dire, à un public qui est un public cultivé, un public en attente, de découvrir toutes les facettes de la culture à Marciac.
Un public éclectique à Marciac.
Oui, un public très éclectique, un public composé à la fois de gens qui sont fidèles à ce que le jazz a été,
et de jeunes
publics qui ont découvert cette musique au cours de ces dernières années à travers la démarche pédagogique que nous avons initiée et qui sont aujourd'hui extrêmement connaisseurs. Moi, je suis ravi de voir que les jeunes aujourd'hui comprennent tous les codes de cette musique et viennent aujourd'hui contribuer à son épanouissement.
Vous aimez dire, Jean-Louis Guillaumont, que Jazzy Marciac, c'est surtout un outil pour aménager et développer votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, j'ai l'habitude de dire, alors même si quitte à choquer, que la musique n'est qu'un aimable prétexte, c'est-à-dire qu'elle a permis non seulement, bien sûr, à Marciac et aux Marciacais et aux gens de ce territoire plus largement de s'ouvrir au monde et à toutes les formes de culture, mais aussi de découvrir ou de redécouvrir leur identité, de se réapproprier leur patrimoine, bref, de connaître des déclinaisons auxquelles ils n'auraient pas été promis si le festival n'avait pas été là pour révéler toutes ces choses-là. Et comme je suis un acteur, vous le savez, je suis un élu au service des territoires, j'aime bien expérimenter au sein du territoire dont je suis l'élu local, je suis maire de Marciac. J'aime bien voir naître, je vais dire, des projets qui, et le jazz est là en tant que moteur, en tant qu'outil du développement de notre territoire. Et je suis ravi de constater aujourd'hui, 37 ans plus tard, tout ce qui a pu être réalisé, y compris le fait que nous ayons pu démentir un certain nombre de choses auxquelles nous étions, semble-t-il, tout naturellement promis, parce que ce projet a existé, parce qu'il a suscité des enthousiasmes, parce qu'il a redonné confiance à un territoire et qu'il permet aux habitants de ce territoire de rêver un autre devenir, bref, d'avoir une perspective au moment où notre pays traverse
d'autres territoires.
Bien sûr, au moment où notre pays traverse une forme de morosité, une crise, donc une morosité qui est pesante.
Croyez-vous à un nouvel ordre rural, un changement de paradigme, un exode urbain ?
Non, c'est difficile à dire. Je crois qu'aujourd'hui, les territoires ruraux doivent écrire leur devenir à la lueur des dispositifs législatifs qui sont mis en œuvre. On parle aujourd'hui, vous le savez, beaucoup des fusions des régions. Mmh. On parle de la redéfinition des territoires, c'est-à-dire des EPCI qui doivent monter en puissance pour atteindre dans un premier temps un seuil de 10 000 habitants et en 2017 un seuil de 20 000 habitants. On parle également des outils qui ont été mis en œuvre pour permettre de donner une suite aux pays qui ont structuré notre territoire régional, 32 pays. Et aujourd'hui, le pôle d'équilibre territorial rural est un concept qui me paraît extrêmement intéressant et qui devrait permettre à des fédérations de PCI, en quelque sorte, de s'approprier, je veux dire, un projet, de le mettre en œuvre et donc de tracer une perspective avec l'aide.
Vous seriez favorable, vous, à une fédération des EPCI, ce que vous appelez fédération des EPCI, c'est-à-dire, en quelque sorte, un super pays qui viendrait supplanter les conseils généraux?
Ils ne sont pas là pour supplanter, pour se substituer. Je crois que c'est un faux débat. Aujourd'hui, les gens raisonnent en structure et pas en projet. Moi, j'ai toujours été un homme de projet. Je suis persuadé que ce sont les projets qui provoqueront, j'allais dire, l'émergence des outils adaptés. Et donc, le PETR dont je vous parlais tout à l'heure invite, j'allais dire, les élus d'un territoire à se constituer en formation pour mettre en œuvre un projet de développement de leur territoire. Et ensuite, se régleront, j'allais dire, les problèmes de compétences. Alors il faut effectivement que nous sortions, j'allais dire, de la confusion actuelle qui veut que toutes les collectivités s'investissent à l'identique dans un certain nombre de registres. Je crois qu'il y a effectivement des définitions à donner.
Clarification de compétences.
Exactement, clarification des compétences. Également, mise en œuvre de fiscalité dynamique adaptée. On ne peut pas vivre que de compensation. Il faut aujourd'hui donc revoir
fiscalité.
Voilà, c'est une nouvelle donne à mettre en œuvre. Et je crois que nos concitoyens, au lieu de faire preuve de toutes les réticences que nous voyons fleurir aujourd'hui, doivent s'investir dans cette nouvelle démarche avec enthousiasme pour créer une nouvelle forme à la fois de maillage territorial, de définition des compétences et de mise en œuvre de nouveaux projets à l'échelle du territoire pertinent.
Un mot sur la fusion, la probable fusion des régions pour ce qui nous concerne Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, est-ce que vous y êtes favorable? Parce que, je veux dire, une personne du Gers serait plus encline à dire qu'elle préférerait l'Aquitaine.
Vous savez, nous avons eu ce débat en région et nous le prolongerons dans les temps à venir. Le président Malvy a pris un certain nombre d'initiatives. Mais imaginez quelques instants qu'on ait réuni dans une même salle un historien, un géographe, un économiste et un sociologue et qu'on leur ait dit « tracez-nous les contours d'une région idéale ». Nous pourrions attendre un moment avant de les voir se mettre d'accord autour d'une même carte. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous est proposé est une solution, moi, qui me convient. Bien sûr qu'il y aura a posteriori des recompositions à la marge qui se feront pour des territoires qui formuleront des choix. Mais je crois que l'option qui nous est offerte aujourd'hui est une option riche de perspectives et qu'il faut s'y engager avec enthousiasme et qu'il faut se mettre au travail aujourd'hui au lieu de faire preuve de faire part de toutes les réticences. Vous savez, on nous dit qu'il n'y a eu aucune forme de consultation, que tout nous est tombé dessus. Il y a 10 ans, moi, à la région, que j'entends parler de cette recomposition du paysage. Donc moi, je l'accueille avec sérénité et en pensant que notre région, dans cette fusion, eh bien, trouvera un nouvel espace et surtout pourra mettre en œuvre un projet à une autre échelle.
Allez, un mot pour terminer sur le jazz et sur votre festival, Jazz in Marciac. Quel est le fil conducteur cette année?
Nous avons, alors, il y en a plusieurs, mais celui qui domine, c'est quand même les rencontres, les duos. Après avoir rencontré Herbie Hancock et Wayne Shorter, Chick Corea, Stan McClack, Wynton Marsalis, Richard Galliano, qui vais-je vous citer encore, Kenny Barron par exemple, en compagnie de Stephen Harris, beaucoup de rencontres parce que il y a un vrai plaisir pour les musiciens à se rencontrer quand ils le font librement, bien évidemment, et pas à la demande d'un organisateur de concert. Et donc, moi, je mesure tous les soirs ce plaisir de la rencontre, de l'échange, la naissance de nouveaux projets et de choses qui font plaisir à voir.
Bon. Merci, longue vie à Marciac, donc.
Et merci, bon festival. Et merci pour votre fidélité à notre manifestation.
Merci. Bonjour, Laïla Martial.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez une émotion particulière à venir à Marciac? Je sais que c'est pas la première fois que vous venez ici, que vous allez vous produire. Est-ce que pour une ancienne élève de Marciac, ça fait quelque chose?
particulier.
Ah oui, ça fait quelque chose de particulier. À chaque fois que je reviens ici, c'est un mélange d'euphorie, d'excitation, de trac aussi. C'est comme retrouver la famille, hein, et à la fois j'ai envie d'être à la hauteur. Donc il y a un tas d'émotions mélangées. C'est toujours beaucoup d'émotions.
Un challenge particulier quand même de se produire ici à Martial, puisque
vous avez
votre famille certainement qui vous suit.
Après, j'ai toujours un challenge particulier à monter sur scène, voilà. C'est
à fortiori à Martial.
Et à Martial, c'est autre chose. C'est voilà, oui, bien sûr, j'ai envie d'être à la hauteur, de proposer quelque chose de vraiment pertinent. Et là, particulièrement cette année. Là, j'ai un trac un peu particulier parce que c'est
Pourquoi
un nouveau projet. Mmh. Donc, ça fait 7 ans que j'étais avec le même groupe. Et ça doit faire 6 ans que je viens à Martiac jouer l'été avec ce groupe-là. Et là, ce soir, off et puis après le hymne. Mmh. Et là, ce soir, c'est un nouveau projet. Donc, il y a quelque chose de très frais, de sur le fil. Et donc, j'ai un trac un peu nouveau, un peu particulier.
Je reviens sur vos années, certainement des questions qu'on vous pose très souvent quand on vous interroge ici à Martiac, vos années de collégienne, d'étudiante musicale, est-ce que vous en gardez un bon souvenir?
Ah oui, très 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 bon. Vraiment, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs en termes d'émulation, de joie de joie du collectif. Parce qu'on était quand même interne, on était une quarantaine d'élèves à être internes, à vivre ensemble, à découvrir la musique ensemble. Donc il y avait
c'était
une communauté. Hein, en fait.
Oui. Vous aviez parlé d'un vase clos.
Oui, on était un peu en huis clos ensemble, et puis c'était très fort, ouais, ce qu'on a pu vivre tous. Aujourd'hui, quand on en parle, on est unanime là-dessus. C'est, voilà, que ça a été dit, que ça a été difficile ou que c'était bon et décisif pour la suite, ça a marqué quand même. Ça nous a tous marqué.
Vous avez étudié le piano?
Oui.
Le saxophone aussi?
Non.
Non, mais le piano en tout cas, ici à Martiac. Et vous avez changé radicalement pour vous consacrer quasi exclusivement au chant. Est-ce que c'était un calcul de votre part ou circonstances qui ont permis ceci?
Bon, c'est jamais un calcul. Hein. On fait les choses parce qu'on les désire vraiment. Donc moi, petit à petit, il y avait vraiment la voix qui prenait une place. Pour moi, c'était une vraie joie de chanter. C'était direct. Donc il y avait un côté laborieux avec l'instrument que j'avais pas avec la voix, parce que c'était très ludique pour moi de chanter. J'entendais quelque chose et j'avais envie de le reproduire. Mmh. Tout de suite, j'avais l'instrument qui me permettait de faire ça. Donc voilà, il y a un autre rapport à la musique.
Le chant, pour vous, c'est un moyen de vous exprimer. J'ai lu ça aussi quelque part. Rarement, j'ai lu de la part d'une chanteuse la volonté de s'exprimer autrement que par la parole. Comme une singularité, quelque chose de particulier chez vous?
Ben, la musique me touche. Hein. La musique, la mélodie, ça m'habite. Quand je chante, ça m'habite totalement, pleinement. Et du coup, mettre des mots, c'est encore autre chose. C'est habiter autrement le son. Donc, c'est y mettre beaucoup de sens. Donc, surtout avec ma langue, le français, si j'y mets des mots, je mets ça, je les porte. Je les porte au devant avec le sens qu'ils ont. Et là, moi, ce que je porte, c'est la musique, en fait, le chant. Voilà, j'ai envie de faire de la musique avec ma voix, avec mon corps.
Alors, ce projet Baabox, c'est... d'ailleurs, pourquoi ce mot, Baabox? Est-ce que ça a une signification particulière?
Oui, tout à fait. C'est en anglais, la chèvre belle aussi, mais elle fait baa. Voilà. Contrairement à la chèvre française qui fait baa.
Alors, est-ce que vous avez un programme particulier pour le concert de ce soir, ou ce sera improvisation? Tout est calé. Que vous amènerez une note particulière pour votre public.
C'est un groupe récent. Donc notre premier concert, c'était il y a 2 mois. Donc la musique est vraiment en évolution. Et là, c'est comme disait Daniel Humer hier, sometimes it's free, sometimes it's not free. On a de l'écriture et on a de l'improvisation à l'intérieur de tout ça. Voilà.
Vous avez vu votre ancien co-disciple à Martiac, certainement Émile Parisien hier.
Oui, je suis allée voir, oui, bien sûr.
Vous lui avez parlé des souvenirs comme ça de collégiens à Marciac et le fait de se reproduire. Est-ce que vous avez tous les deux les mêmes sentiments qui vous traversent quelque part?
Oui, je pense qu'on est, est liés. Après, on se connaît depuis qu'on a 10 ans ou 12 ans. Et on est amis aussi. Donc, c'est fort pour nous deux de revenir ici. Il y a un attachement, un vrai attachement.
Et vous êtes finalement, j'imagine, heureuse que la programmation, la direction de Jazzine Marciac mette le pied à l'étrier à plusieurs de vos anciens camarades.
Je suis très heureuse de ça et je trouve que c'est important parce que par le biais des anciens élèves, il y a un nouveau type de jazz qui peut s'infiltrer dans la programmation de Marciac. Donc un jazz un peu plus alternatif et puis surtout d'une nouvelle génération tout simplement. Et donc, je trouve que c'est beau et intelligent de la part de Jean-Louis Guillaumont et de la programmation de faire la place à ça. Voilà, parce qu'il y a de l'affectif et du coup, ça permet de faire, d'amener des choses un petit peu plus, comment dire, exigeantes, un peu difficiles, parce qu'avec l'affectif, on peut amener aussi d'autres choses. Et donc ça, c'est vraiment bien de donner la place à ça.
Vous citez Jean-Louis Guillaumont, que j'ai rencontré et discuté avec lui en début d'après-midi, et il me disait qu'il, d'après lui, vous avez une grande carrière de soliste, chanteur. Est-ce que c'est un compliment qui vous va droit au cœur, j'imagine, mais est-ce que vous...
Ah oui, ça me va droit au cœur.
Vous sentez que vous aurez une grande carrière de chanteuse?
En fait, c'est presque pour moi de dire chanteuse, c'est presque...
Réducteur.
En fait, oui, parce que je me définis pas comme... Je ne me sens pas vraiment chanteuse. Je sens que la musique me procure une grande joie. La musique en tant que telle, de la chanter, et aussi l'art, en fait, le fait de s'exprimer. Là, je viens de faire un stage de clown de 10 jours. Et le fait d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose de ce qu'on est. Que ce soit à travers la voix, à travers l'attitude aussi, les élans, les pulsions qu'on peut avoir, les pulsions chantées, les pulsions... Donc, en fait, je ne sais pas quelle carrière m'attend. En tout cas, je suis heureuse de ce que je fais maintenant. Et ça me va droit au cœur que M. Guillaumont dise ça et qu'il reconnaisse ça. Voilà, parce que c'est...
Une vraie singularité, hein. C'était ces mots aussi.
Probablement.
Alors, CFM Radio, c'est sur le Tarn-et-Garonne et à Montauban particulièrement. Nous avons deux festivals qui sont très importants. Alors Chante, certainement que vous connaissez, et Jazz à Montauban. Est-ce que les auditeurs, les habitants du Tarn-et-Garonne auront la chance de vous voir vous produire chez nous?
Eh bien, si, avec un peu de chance, le programmateur du festival entend votre émission, je me ferai une grande joie d'aller chanter.
Rendez-vous au prix. Merci beaucoup, Leïla Martial, d'avoir accepté notre rencontre.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.